Europe 1.
Et si on partait ?
Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 tout l'été, je vous emmène dans les endroits les plus étonnants, les plus savoureux, les plus surprenants de la planète, juste pour le plaisir de rêver, d'imaginer, de s'évader. Nous sommes aujourd'hui à Cuba. Ram bam bam bam, c'est bien de rhum qu'elle parle, hein,
oui,
c'est ça,
oui,
Emmanuel Jarry.
Oui.
Donc évidemment, c'est une des boissons les plus célèbres à Cuba.
Ah bah ça, on en boit beaucoup, oui. Ouais. Moi, avant de commencer, je voudrais dire que Cuba, ça a été un énorme coup de cœur et je ne m'y attendais pas parce que j'ai plutôt un tropisme du côté de l'Asie.
Ouais.
Mais là, j'avoue que dans toute... Enfin voilà, j'ai adoré ouais. cette île. Et, alors c'est une cuisine métissée, on a beaucoup parlé des mélanges, ouais. etc. Et moi, j'aime bien retrouver à travers les plats, à travers la cuisine, l'histoire d'un pays. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette cuisine? Elle raconte évidemment la période espagnole, la période africaine, puisque les Africains sont venus travailler dans les plantations de canne à sucre, et entre 1821 et 1831, 10 ans, il y a eu 600 000 esclaves africains qui sont arrivés à Cuba.
600 000.
Donc vous imaginez, même si l'île est grande, enfin, sur une période de 10 ans, donc évidemment, ils sont arrivés avec leur religion, leur musique, ouais. leur cuisine. Donc la patate douce, l'ignoble, et les Espagnols aussi sont arrivés avec leurs produits, le riz, les agrumes, la viande. Et on retrouve tout ça dans la cuisine, en particulier dans un plat, l'arriaco, qui est emblématique de la cuisine cubaine, parce que c'est un mélange, un pot-au-feu dans lequel on met tout, des légumes, des tubercules, de la viande de bœuf, tout ce qu'on veut. C'est la cuisinière qui décide, des bananes plantain, du maïs, de l'igname. Mmh. Alors, vous ne me demandez pas si c'est bon, mais parce qu'en fait...
on est suspendu à vos lèvres, on aimerait savoir.
Non, mais en fait, moi, je dis toujours, tout peut être bon, ça dépend de la cuisinière. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça représente la nation cubaine, de la même manière, par exemple, que le steak frites local, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est le poulet aux haricots noirs et au riz. Les haricots noirs et le riz qu'on appelle moros y cristianos, les morts et les chrétiens.
Ah, c'est marrant, ça.
Ouais, et c'est une façon, alors qu'on en mange dans toute la Caraïbe, mais là, on l'appelle comme ça, et c'est une façon peut-être d'exprimer dans l'assiette un idéal cubain où les noirs et les blancs se mêlent sans distinction.
Ah ouais, impressionnant. Ouais,
pas mal, je pense.
Et les saveurs cubaines, par excellence, ce sont les saveurs sucrées. Alors, les Cubains en sont fous, on mange beaucoup de flan coco, et aussi des petites tablettes de manis, sont des arachides qui sont recouvertes de caramel et qui sont vendues dans la rue.
C'est super bon, ça.
Hein, c'est très bon. Ah, alors, elles peuvent être soit les petites arachides dans des cônes naturelles, soit avec du sucre, mais le sucre, c'est plus qu'un ingrédient à Cuba, c'est l'histoire de l'île.
Ah bah oui, parce qu'une grosse partie de l'économie de l'île s'est développée avec le sucre.
Exactement, et d'ailleurs, pendant longtemps, Cuba a possédé le plus important réseau de voies ferrées de toute l'Amérique latine.
C'est vrai.
1200 km de voies, par exemple, le Pérou, à l'époque, au 19e siècle, n'en avait que 400. Donc vous voyez, si on regarde la différence de taille des deux pays...
Et je peux vous dire qu'il y a encore un réseau ferroviaire important pour un pays de l'Amérique latine.
Ah oui, d'accord, encore aujourd'hui. Donc ça, c'était pour le transport du sucre. Et donc voilà, le sucre, qu'est-ce que c'est? Le sucre, c'est le rhum. Et le rhum à Cuba, c'est plus qu'une boisson, c'est un graal. Et ça, je l'ai compris quand je suis allée à la rencontre d'un maestro ronero, je ne sais pas si je prononcerai bien, un maître romier. En fait, j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir un rendez-vous parce que c'était comme rencontrer un ministre.
Alors, quelle chance.
mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. En fait, ces maîtres romiers, c'est des grands personnages.
Ouais,
vraiment, qui sont très, très respectés à Cuba. Ils sont 8 sur toute l'île. Il y a 7 hommes et une femme. Ils sont payés par l'État cubain pour aider toutes les distilleries sans distinction à améliorer la technique, à améliorer le goût du rhum, la qualité du rhum. Et pour pouvoir devenir maître rhumier, il faut à la fois avoir des connaissances techniques, mais aussi des qualités un peu plus inattendues. Et alors, l'interview que j'ai faite de cet homme, je l'ai enregistrée. Je vais vous restituer mot pour mot les propos de ce maître rhumier parce que c'est assez surprenant. Alors, je le cite. « Le rhum n'est pas uniquement une boisson, c'est une partie de notre identité. Le rhum est multicolore, heureux, vivant, solidaire. Pour devenir maître, il faut connaître tous les aspects culturels, historiques, géographiques de Cuba, mais encore posséder des valeurs morales comme l'intégrité, la loyauté, afin de ne jamais trahir la tradition. »
Ah bon, pour faire du rhum.
Voilà, pour
il
faire
faut
du rhum.
Ça.
Et moi, si vous voulez, j'ai quand même interviewé des œnologues.
Enfin,
des
gens comme... le rhum, là, c'est autre chose. Hein, pas
exactement.
Autre chose,
hein. Non, mais je veux dire, c'est quand même incroyable. Et c'est une formation qui dure 15 ans.
15 ans ?
15 ans. Et pendant cette formation, on apprend
mais
les secrets.
Mais ils vont en cours une fois par semaine.
Non, c'est toute la journée. Non, mais c'est vraiment, c'est intensif. Hein. Ils sont 8, vous imaginez, pour s'occuper de toute la production du rhum de l'île. Et en fait, pendant 15 ans, on leur apprend donc toutes les techniques, mais aussi les secrets du rhum, dont je ne peux pas vous parler, puisque par définition, ces secrets, il n'a pas voulu m'en dire deux mots. Et donc voilà, le rhum, ce n'est pas seulement une économie, c'est quelque chose de très fort dans l'identité cubaine.
Oh, c'est mystique à ce niveau-là.
Ah bah complètement. Moi, ouais. C'est ce que j'ai ressenti hein, pendant l'interview. Et pendant, quand le cantinero, quand un cantinero, un barman, ouvre une bouteille de rhum à Cuba, quand il l'entame, hein, pas à chaque fois qu'il l'ouvre, il verse quelques gouttes sur le sol pour les saints de la Santeria.
Ah, oui.
Santeria, c'est la religion afro-cubaine.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, je peux vous dire qu'on en ouvre souvent hein, des bouteilles de rhum à Cuba. Donc, voilà, merci.
Ça fait comme ça, une bouteille de rhum hein.
Il n'y a pas de bouchon.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un bouchon comme ça. Hein.
Oui, parce que Jérémy, notre réalisateur, est passionné de rhum.
Ah, ouais, ouais. Voilà,
et en fait, donc voilà, en fait, et ce qui m'a surpris, c'est que là-bas, les bars ouvrent à partir de 10h du matin et c'est parti pour les mojitos.
Hein. À 10h du matin.
Tout à fait. Alors ça, c'était un truc incroyable parce que même les touristes, alors qu'il y a une chaleur écrasante, 80% d'humidité dans l'air, ils visitent les bars et à la fin de la visite, on propose un cocktail.
Et enfin, des vrais mojitos avec de l'alcool dedans.
Ah, ouais. Ah, parce que, ah oui, d'accord, un vrai mojito, c'est parce qu'il
les
est très alcoolisé.
Les amis, tout ça avec modération.
Avec
bien
modération,
sûr, boire avec modération, même
sûr,
à 10h du matin.
On reste raisonnable.
Oui, c'est ça.
On ne s'emballe pas.
On passe de daiquiri à mojito, on passe de Cuba Libre à d'autres cocktails. C'est toute la journée, et puis évidemment, quand on en a bu 3-4, eh ben, on danse dans la rue.
Oh oui,
on
n'arrête
pas.
Oui.
Ah voilà, Jean-Bernard, on a fait l'expérience.
Ah ben Jean-Bernard, il est dans tous ses états.
Je vous raconterai.
Non, en mais privé, c'est... bien sûr.
Et c'est... Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, les bars, ils sont très connus. Ils ont été fréquentés par Hemingway.
Oui.
Donc, c'est vraiment des monuments. Ça se visite comme ailleurs, on visite des musées. Donc, mm-hmm. Voilà, c'est cette ambiance dans la vieille ville de la Havane qui est d'une beauté, d'une sensualité incroyable.
Mm-hmm. Ouais. Je voudrais quand même dire qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont été réhabilités et restaurés que je trouve... Bon, c'est chouette parce que, voilà, bon, on est dans un décor presque à la Disneyland parce que c'est refait...
Un comme... petit peu trop.
Mais voilà, un petit peu trop.
Mais est-ce que vous parlez de... Floridita, ce bar là, vous savez, où on va tous, etc. Alors, donc, c'est un bar où il y a plein de touristes américains ou autres. Alors, c'est vrai qu'on peut à peine entrer, c'est très désagréable, mais si, moi j'ai goûté le daiquiri là-bas, il y a rien, franchement. Il n'y a pas de meilleur daiquiri
au
monde.
C'est le meilleur au monde,
c'est
ça.
C'est le meilleur au monde.
Ah, oui.
Mais c'est vrai que c'est un peu pénible parce qu'on a toujours l'impression d'être à Walt Disney, comme vous disiez.
Alors, il y a ces quartiers, c'est ce que je voulais dire, il y a des quartiers qui sont très, très restaurés, où on peut avoir l'impression que c'est un petit peu trop restauré. Mais il reste des quartiers entiers de la Havane qui ne sont pas restaurés. Et le conseil que je vous donne, c'est d'aller aussi dans ceux-là.
De sortir de la vieille Havane.
De sortir de la vieille Havane qui est très restauré, et pour aller dans la vieille Havane, qui est restée vieille.
Oui, c'est ça, Centro Havana.
Et là, vous allez toucher à l'âme cubaine de façon un petit peu plus évidente, en fait, plus simple.
Et comme ça, on est toujours dans le jus.
Et comme ça, vous êtes toujours dans le jus.
Bah, le jus, le rhum.
Ah, merci. Merci Nathalie pour cette précision.
Mais je vous en prie.
Ça me paraissait très important. À suivre dans un instant les bons plans de Jean-Bernard Carrier.
Ah, mais oui.
Buenas Vista Social Club.
Je vais monter.
Chan Chan. Sur Europe 1.